On écouterait ça toute l'après-midi quand il fait chaud et qu'il fait soleil. C'est Maria Mulata, qui est une chanteuse, musicienne colombienne, voilà, qui, bon, elle se produit déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. Elle a déjà remporté des prix, ainsi de suite. Alors, voilà, on entendait la Pava Hecha, mais pardonnerez ma prononciation espagnole, mais le mot à retenir, c'est Maria Mulata, M-U-L-A-T-A. Si vous aimez ça, il y en a plein d'autres. Et allez chercher ça sur le net. Bonjour, Élisane.
Bonjour, François.
Alors, au lieu d'être en Colombie, on va être ailleurs, mais c'est une belle introduction pour la première revue de presse de l'année.
Oui.
Nous y voici. Hein? Et puis, ça a été un été paralympique.
C'était un été paralympique, François. Donc, on va en reparler aussi un petit peu tout à l'heure.
Tout à fait.
Et puis, effectivement, on commence la revue de presse, donc aux Comores. On va pas souvent aux Comores,
non,
François.
On va pas souvent aux Comores.
Je sentais un petit peu exotique.
Ben, les Comores, pour ceux qui ne le savent pas, est un État africain indépendant. En fait, ce sont trois îles qui sont situées grossièrement entre l'île de Madagascar et le continent africain, donc sur la côte est du continent africain, dans l'océan Indien. Voilà, les gens aux Comores sont pour la plupart, arabophones ou francophones, mais cela dit, voilà. Qu'est-ce qui se passe aux Comores?
Aux Comores, on a une apparition de choléra, François.
Okay.
Et forcément, ça touche évidemment toute la population, mais ça touche plus sévèrement les personnes en situation de handicap, parce qu'ils sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, d'avoir des complications par rapport... au choléra, et bien sûr, leur système immunitaire peut être affaibli. Et évidemment, là, étant donné les circonstances au Comores, c'est quand même un pays qui est relativement pauvre. Et
oui.
Donc, au niveau des services sanitaires et des services hospitaliers, c'est pas tout à fait...
C'est pas toujours à niveau.
C'est pas toujours à niveau. Donc là, on demande aux gens de faire attention au Comores et puis de suivre les... Et consigne sanitaire de se laver les mains, d'essayer donc de bien se doucher lorsque c'est possible. Mais évidemment, encore une fois,
la vaccination.
Au niveau des endroits où on peut se laver, la disponibilité du savon et tout ça, c'est un peu plus difficile.
Exact.
Il y a également, vous l'avez dit, François, la vaccination qui peut changer les choses. Et particulièrement pour les personnes en situation de handicap, bien que, comme je vous l'ai dit, ça touche tout le monde. Les personnes en situation de handicap étant plus vulnérables, on les invite à aller chercher avec ça, mais encore beaucoup sensibilisation à faire parce que les gens sont peut-être moins informés par rapport au vaccin, par rapport à ses bienfaits, par rapport au fait aussi qu'il n'est pas dangereux de se faire vacciner. Donc, c'est toute une campagne qui a été faite, entre autres, par Handicap International et par l'ONU.
Et l'association Trisomie 21, l'association comorese de Trisomie 21, ben alors il y a une campagne donc pour sensibiliser la population là-bas contre le choléra, une maladie on peut penser que c'est éradiqué parce que dans le monde occidental, on n'en parle pas souvent. Là.
Mais non,
c'est vrai.
Je vous confirme, dans plusieurs pays en voie de développement, c'est encore malheureusement très à jour. Et même si avec les moyens au niveau occidental, ça passerait assez rapidement, quoique ce serait quand même désagréable dans des pays où on n'a pas nécessairement, on n'est pas au niveau sanitaire, au niveau des soins. Peuvent en mourir.
Exact. Avec l'accès à l'eau potable et des choses comme ça, ben là, ça favorise pas une hygiène suffisante. Alors, parlons de paralympisme un petit peu.
Oui.
Dans le magazine,
paralympique, ça faisait longtemps.
Le magazine The Economist.
Oui. The Economist qui a sorti un article quand même que j'ai trouvé intéressant. Encore une fois, un pays dont on parle assez peu ou du moins dont on parle. Pas toujours pour les bonnes raisons, là, étant donné les circonstances de la guerre. Donc, les athlètes ukrainiens paralympiques de volleyball assis qui ont fait, dans The Economist, un article sur les façons dont ils s'entraînent. Donc, il faut savoir là, que l'Ukraine, quand même, sont une équipe qui est compétitive.
Oui,
hein.
Ils sont dans le top 4 ou le top 5. Là. Ils avaient des des ambitions au moins de se retrouver au pied du podium. Et l'article dans The Economist, qui est un article de fond, nous fait connaître les joueurs de l'équipe de volleyball assis d'Ukraine. Et ce qui est vraiment frappant, c'est les conditions épouvantables dans lesquelles ils s'entraînent.
Bien, on parle entre autres de s'entraîner avec des équipements militaires. Donc, évidemment, on en blaguait un peu dans l'article, mais on utilise des mines, entre autres des mines anti-chars là, pour faire des poids. Oui. On parle aussi de personnes donc qui sont dans l'armée. Pour ceux qui physiquement sont encore capables de servir dans l'armée, vous savez exact. Évidemment que l'Ukraine a été envahie par la Russie. Donc, des athlètes qui ont manqué des entraînements parce qu'ils doivent aller servir
au front,
revenir. D'ailleurs, on parle aussi du fait qu'il y a beaucoup d'athlètes paralympiques qui, malheureusement, sont devenus athlètes paralympiques
à cause de la guerre.
À cause, bien sûr, de la guerre.
Exact.
Donc, qui ont perdu des membres, qui ont perdu de la mobilité, et ce qui leur a permis, et là, excusez-moi l'expression, là, c'est pas comme si c'était positif, mais ce qui leur a permis de devenir athlètes paralympiques, mais ils ont été capables, donc, d'aller chercher du positif
reprendre,
dans tout ça.
Ouais. Et de remonter la côte mentalement aussi après des drames comme ceux-là. Dans le même magazine The Economist, il y avait quelque chose au sujet du théâtre Globe à Londres, une pièce de Shakespeare qui a fait beaucoup parler d'elle.
Oui, une adaptation de Richard III.
Oui.
Qui va être joué donc en langue des signes, François.
Ouh, d'accord.
Donc, on parle de... Ça va être joué à Londres, donc ce ne sera pas évidemment là, ici. Par contre, on parle de l'avancement pour les personnes en situation de handicap, bien sûr, d'avoir une certaine visibilité au théâtre. Donc, il va y avoir certains acteurs qui vont jouer en langue des signes.
Exact.
Il y a aussi une actrice et un acteur qui sont en situation de handicap physique.
Oui. Qui vont être sur le plateau. Et il y aura également la pièce Antoine et Cléopâtre. Et là, c'est intéressant parce que le dialogue entre les deux, Antoine parlera anglais dans le texte original de Shakespeare et Cléopâtre, elle, s'exprime en langue des signes
oui.
pour marquer la différence culturelle entre les deux.
Donc, ça va être une pièce bilingue et bien sûr, ça va être intéressant parce que, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent et ça va permettre... effectivement, de voir à quel point il y a deux mondes se côtoient et essaient de se comprendre dans des œuvres comme celle de Shakespeare, qui sont des grands classiques. C'est quelque chose qui ouvre au handicap à un plus grand public. Donc, ça va être intéressant à voir, là. Et puis, c'est impressionnant de mêler, donc,
deux mondes
et
oui.
Un monde du handicap. Là, on
exact.
Pourrait penser que ça ne va pas ensemble, mais au contraire, là, l'équipe du théâtre et de l'adaptation de la pièce ont vraiment voulu rendre ça adapté aux différentes réalités et montrer que les deux mondes peuvent se côtoyer.
Parfait. Bien, après la pause, on revient et on parle encore de culture, mais cette fois-ci à Madrid. Oui, de retour avec Élisane Pellerin. On continue notre tournée culturelle, dirais-je. À Madrid.
Oui, à Madrid, encore une fois. On parlait avant la pause de Shakespeare. Maintenant, on s'en va dans un musée pour les personnes non-voyantes qui vont pouvoir découvrir des monuments. Donc, on a à Madrid un musée où on a des reproductions d'œuvres qui sont des œuvres connues et
d'accord.
les personnes non-voyantes peuvent toucher.
Tactile. Donc, il y a une version tactile de l'œuvre. Il y a des monuments, dont il y a des maquettes de monuments du monde entier qui peuvent permettre par le toucher à être comprises ou appréciées, que ce soit la basilique Sagrada Familia de Barcelone, de Gaudí. Ça, évidemment, toucher ça doit être assez rigolo parce qu'ici, il y a 10 millions de détails dans cette église. Mais encore une fois, ben voilà une belle façon de s'intégrer.
Oui, on parle de 37 reproductions, François, donc, et on parle de 71 affiliés au musée, C'est le musée typologique de Madrid. On parle effectivement d'une façon donc d'amener l'art à des personnes non-voyantes et de leur permettre d'apprécier elles aussi l'art. Et effectivement, c'est une autre façon d'apprécier, non pas par les yeux, mais par le toucher. Et je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais c'est effectivement important quand on y pense que les musées soient accessibles. Que l'art en général soit accessible aux personnes en situation de handicap.
Exact. Et dans cette exposition-là, il y a des monuments là, comme le Taj Mahal, le Kremlin, la Statue de la Liberté, le Tower Bridge de Londres. Le Parthénon, ainsi de suite. Alors, c'est quand même remarquable parce que c'est un peu comme faire le tour du monde. J'ai eu le plaisir d'aller dans plusieurs musées en Europe où il y avait des sections comme ça qui étaient tactiles.
Oui.
Et ça fait vraiment une différence. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir toute la collection du musée là, qui se retrouve sous cette forme-là. Voilà. En Espagne, ils sont chanceux, les handicapés. Ils sont chanceux, les handicapés visuels. Quelle drôle de phrase, mais c'est pas grave. Je suis handicapé visuel moi-même, j'ai le droit de le dire.
Oui, c'est
alors,
vrai.
Voilà. Chanceux, pas chanceux. C'est que l'idée, c'est que tant qu'à être handicapé visuel, l'Espagne est un bon endroit parce qu'il existe une association là-bas, une organisation qui s'appelle ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. Excusez-moi pour ma prononciation, l'Organisation nationale des aveugles espagnols, qui qui on a cédé la concession de la loterie nationale.
Oui, c'est intéressant, François, parce que justement, on sait à quel point la loterie est populaire. Hein, on a qu'à penser à la loterie ici au Québec.
Oui.
Mais dans ce cas-là, donc, c'est vraiment pour financer l'organisation qui donne des services aux personnes en situation de handicap visuel. Et donc, la loterie est vendu à monsieur, madame, tout le monde, mais les profits sont remis à cette organisation-là. On parle vraiment de
beaucoup
gros,
d'argent.
Lots, oui, de gros, gros lots. Donc,
on parle de 2,5 milliards d'euros. C'est 3,8 milliards de dollars canadiens par an.
Par année, oui,
oui,
c'est énorme.
Qui permettent de financer le salaire des quelques 72 000 employés, dont plus de 60 % sont des personnes handicapées.
Oui, donc les revenus permettent des investissements, dont, entre autres, le musée dont on vient de vous parler, qui a été financé à l'aide de cette loterie-là. On parle de 16 000 visiteurs. On parle aussi, donc, d'œuvres qui sont réalisées par des artistes présentant un handicap visuel. On parle donc d'accessibilité à la culture, à des livres en braille, entre autres.
On sait, même en fait, possède une chaîne de radio-télé. ils sont vraiment... Ce sont des acteurs très importants dans le paysage culturel en Espagne. On s'est reconnu, a démarré à la fin de la guerre civile espagnole. Comme souvent, c'était le cas dans d'autres moments. On parle, la Première Guerre mondiale est un peu l'origine de l'INCA ici au Canada. Les Paralympiques sont nés suite à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on sait, après la guerre civile espagnole, au début des années 40, le général Franco, ne sachant que faire avec toute cette quantité de personnes invalides aveugles, a décidé de créer une loterie nationale, d'en céder la concession aux personnes en situation de handicap aveugle. Et de les laisser partir avec ça.
Oui,
alors,
mais bon.
Voilà, alors 80 ans plus tard, là, ça fait boule de neige.
C'est extrêmement payant et tant qu'à jouer à la loterie, c'est bien joué pour les bonnes causes.
Pour les bonnes raisons, voilà. En France, il y a encore une fois des problèmes dans le domaine de l'emploi.
Oui, on en a parlé à la dernière saison, François, à peu près au même moment, là. Et on en parle de façon régulière, mais effectivement, là, les aides à l'emploi qui sont diminuées du jour au lendemain, donc 6,8% en situation de handicap en France, et on va parier donc de coupures de moitié dans certaines aides aux personnes en situation de handicap. Donc, on parle de gens là, dont l'allocation a été coupée de 50 %. C'est énorme.
Oh.
Et ça a été fait donc du jour au lendemain. On a reçu un courriel pour indiqué au niveau de
faites attention, le chèque va rebondir.
Oui, ouais, voilà.
C'est quasiment... Oui, ben,
c'était alors, un peu ça, en fait.
En fait, c'est curieux parce que tout à l'heure à l'émission, on avait le plaisir de discuter avec M. Jimmy Turgeon-Carrier de l'Association des personnes handicapées visuelles du bas du fleuve et on parlait des coupures dans les crédits d'intégration travail au Québec. Depuis le 1er août, et voilà qu'en France, un peu la même situation
c'est
se répète.
C'est un peu la même situation, mais alors... ça n'avait pas été annoncé, donc je rigole pas en disant qu'il y a vraiment eu un courriel qui a mis les gens au pied du mur, là, en ouais. disant, bon, à partir des prochains jours, votre allocation sera coupée de 50%, on s'excuse et on vous souhaite bonne chance.
On vous souhaite bonne chance pour la suite. Alors, c'est assez brutal. Alors, on peut évidemment penser qu'il y a une levée de bouclier à ce sujet-là, mais en même temps que cette levée de bouclier au sujet de l'intégration, encore une fois, l'année dernière, à même date, on avait les mêmes problèmes en France. La rentrée des classes pour les élèves en situation de handicap, c'est pas évident.
Non, et encore une fois, en 2024, François, il y a des élèves en situation de handicap qui n'ont pas de carte, donc qui ne sont pas scolarisés, malgré le fait, bien sûr, vous le savez, la scolarisation en France, au Canada et dans la plupart des pays est obligatoire, bien sûr.
Oui.
Pour les enfants jusqu'à un certain âge. Et malgré ça, il y a énormément d'enfants en situation de handicap qui n'ont juste pas de place dans les kiosques parce qu'on ne trouve pas de kiosques ou d'employés qui sont prêts à les accompagner pour leur donner les services dont ils ont besoin au niveau de l'adaptation. Donc, en 2024, évidemment, c'est inacceptable.
Ben voilà, puis il y a un manque criant des personnes qui sont des aides à l'éducation pour les enfants en situation de handicap et il y avait eu une grande campagne pour augmenter de façon significative.
Printemps.
Oui, tout à fait, on en avait parlé ici en onde. Et pour augmenter de façon significative l'appui aux personnes en situation de handicap, enfin, surtout dans le domaine de l'éducation. Alors, ben voilà, ça n'est toujours pas fait. Et on parle de encore une fois d'une rentrée scolaire où littéralement des milliers d'enfants français vont être laissés pour compte. L'Union nationale des associations de parents de personnes en situation de handicap, l'UNAPEI, qui regroupe presque 900 000 personnes en France, va évidemment lever des drapeaux, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. C'était pareil dans le passé, c'est
oui.
terrible à dire.
Et on parle aussi, quand on parle d'enfants qui sont scolarisés, parfois on parle de seulement quelques heures par semaine. Donc, on parle en ce moment de ceux qui ne sont pas scolarisés du tout, mais il y a aussi un problème avec ceux qui sont scolarisés. Il y en a une bonne partie d'entre eux qui ont accès à seulement quelques heures par semaine, qu'on considère quand même scolarisés, mais à 5 heures par semaine, est-ce qu'on parle vraiment d'une vraie scolarisation?
Ouais. Voilà. Hein? Pas tout à fait. Je pense que ça prend du temps avant que les acquis ne s'accumulent. La situation des personnes en situation de handicap, encore une fois, en France aussi, dresse un état des lieux très critique au lendemain des Jeux paralympiques. La France est encore à la traîne, pointée du doigt en 2021 par l'ONU ainsi que par le Conseil de l'Europe en 2023. La Conférence nationale du handicap qui avait eu lieu le printemps dernier là, nous avait laissé croire qu'il y aurait beaucoup d'avancées, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Ouf!
Il y a encore pas mal à faire au niveau de la France dans plusieurs domaines. On a parlé d'accession à l'emploi, d'accession à la scolarité, mais également au niveau du logement, au niveau des transports publics. On traîne au niveau de la France et on promet des plans et on promet d'investir de l'argent, mais visiblement, année après année, on ne fait que très peu d'avancées.
Voilà. Alors, les Paralympiques, ça a été un petit peu un coup de fouet, là, mais on n'a pas de Paralympiques tous les ans. Malheureusement,
non. Et bon, ça donne une visibilité qui est appréciée. Mais bien sûr, quand les Paralympiques terminent, il faut continuer d'en parler.
Quand le cirque quitte la ville, on défait la tente. Voilà. Bon, bien, après la pause, on revient au Canada, au Québec. Puis on a un gros babillard avec plein de choses qui se passent. Bonjour, ça nous ramène, parce que Al Murad est né en Saskatchewan, elle habite en Alberta, ça nous ramène chez nous.
Vous n'auriez rien, François, vous partez en force.
On fait ce qu'on peut.
Effectivement, donc on revient à la maison pour parler ici aussi de problèmes d'emploi des personnes
Tout
en situation de handicap. On demande en fait, est-ce qu'il y a l'ouverture à l'emploi des personnes en situation de handicap fluctue en fonction de pénurie d'emploi?
Oh, je penserais que oui.
Oui, moi aussi, je pense que oui, François. Et les chiffres semblent effectivement nous donner raison. Donc, comme la pénurie s'atténue au Canada et au Québec dans les dernières semaines, dans les derniers mois, on a moins d'inclusion de personnes en situation de handicap. Et donc, on revient un peu à un autre problème, c'est-à-dire que les personnes en situation de handicap n'arrivent pas à trouver d'emploi malgré le fait qu'ils soient scolarisés, qu'ils aient des diplômes.
Tout à fait, qualifiés.
Qu'ils aient différentes forces qui peuvent servir. Ils ont quand même énormément de difficultés. On parle donc d'un chômage autour de 27 %
Ouf! 27 % de chômage.
Pour,
là,
pour les personnes en situation de handicap,
c'est énorme. Si la population en général avait...
C'est près d'une
personne sur trois. Ben oui, si on avait 27 % de chômage de la population en général, là, ce serait...
On brûlerait des rues, François.
Ben voilà. Alors,
on parle de 6 % donc, au niveau du Canada là, en ce moment. Donc, pas besoin de vous dire là, que c'est beaucoup plus...
Ben oui, et évidemment, ça entraîne toutes sortes de problèmes de pauvreté.
Pauvreté, ça coûte cher à l'État, évidemment.
Ça cause
des problèmes, évidemment, de santé mentale. Hein, c'est les gens qui
tout
sont pris à la maison, qui sont isolés, peuvent développer des problèmes au niveau de leur santé mentale et même de leur santé physique à force d'être isolés. On déplace un problème, en fait, et ça coûte cher à l'État. C'est pas du tout productif. Et pour les personnes en situation de handicap elles-mêmes, ai-je besoin de le préciser, qui voudraient contribuer à la société, qui ont des talents et qui ne veulent pas rester à la maison et écouter la télévision toute la journée, on manque d'opportunisme là, pour
tout à
pour,
fait. Alors, la coupure des crédits d'intégration d'emploi est d'autant plus aberrante.
D'autant plus, oui, j'allais dire fâcheuse, mais vous avez raison.
D'empêcher cette intégration-là. Alors, oui, c'est cruel à dire, mais effectivement, quand il y avait vraiment une pénurie d'emploi.
On était prêts à être un petit peu plus ouverts d'esprit.
On ouvrait plus les bras pour accueillir les personnes en situation de handicap. Maintenant que c'est moins criant, bien qu'il y ait encore des...
Oui, il y a encore une
serré.
Pénurie, mais c'est moins criant.
Ah, bien là, tout d'un coup, c'est moins important.
On envoie des CV, puis on a moins de réponses.
Pourtant, à chaque fois qu'il y a des sondages auprès des employeurs qui ont intégré des personnes en situation de handicap à l'intérieur de leur entreprise, à chaque fois, on entend les mêmes choses. Loyauté,
c'est des très bons travailleurs, oui.
L'impact que leur présence a sur tout l'ensemble de l'équipe, de toute la main-d'œuvre.
C'est extrêmement positif, effectivement.
Tout à fait.
Mais malheureusement, là, c'est ça, il faut un petit peu plus d'ouverture d'esprit. Des fois, ça demande un peu d'adaptation, quoique généralement, les adaptations sont assez minimes. Mais on dirait que les employeurs voient ça comme étant une grosse montagne, ne savent pas parfois aussi qu'il y a des programmes, il y a des aides pour ça. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Pour aider à l'adaptation des lieux, à l'intégration des personnes également. Donc, il faut encore le rappeler, donc, d'intégrer les personnes en situation de handicap au travail, ce n'est pas si compliqué et c'est très positif.
Et on va en reparler cet automne parce qu'il y a, il y a souvent des programmes qui sont lancés à ce temps-ci de l'année. Pour conclure avec les Paralympiques et avec leur effet salutaire sur la santé et l'engouement de l'activité physique.
Après, je n'en parlerai plus pendant 3 ans, François, je vous le jure.
Ben non, quand même. Il y a les Jeux d'hiver là, qui s'en viennent.
Ah,
dans...
il y a ça, j'avais oublié. Bon, ben vous êtes pris avec moi. Mais pour revenir, donc, on parle d'un organisme qui est à Montréal, donc le Centre d'intégration et la vie active, le CIVA. Que j'ai connu, avec lequel j'ai travaillé un peu.
D'accord.
Et c'est un centre qui, on le dit, favorise, donc l'objectif favorise le sport chez les personnes en situation de handicap, tant au niveau donc du loisir, mais peut aussi donc pousser des athlètes, les aider dans leur développement.
Vers des niveaux de performance plus élevés.
Très élevés. On parle d'athlètes paralympiques qui ont commencé au CIVA, entre autres... mon ami Alison Avine, qui est en Bossia, qui est très bonne, qui est classée la première ou deuxième au monde de sa
d'une compétition à l'autre.
Son coéquipier, Ruyan Siobanu, Marco Dipeltro aussi, qu'on connaît bien, qui est maintenant, je pense, à la retraite, là, si je ne dis pas trop de niaiseries.
Ancien numéro un mondial.
Ancien numéro un mondial, mais qui est encore avec Steven, donc qui continue son d'intégrer des personnes au sport et de montrer son sport à des jeunes athlètes. Et donc, ils font un travail remarquable en faisant des essais avec des jeunes et des moins jeunes. Des fois, on peut commencer un peu plus tard, hein, puis faire quand même une très belle carrière. Et pour certains, ce sera vers les Jeux paralympiques. Pour d'autres, ce sera pour s'amuser, pour socialiser, pour bouger un peu. Dans les deux cas, évidemment, ça a des ça prend des proportions donc très positives.
Tout à fait. C'est des retombées du paralympisme et de la couverture médiatique des Paralympiques. Hein. Ça donne le goût de bouger à des gens qui, peut-être, a priori, se sentaient pas nécessairement appelés par l'activité physique. Mais donc, c'est des ressources qui existent au Centre d'intégration à la vie active ici à Montréal.
Oui.
Puis il y en a d'autres aussi à Québec.
Oui. Il y en a un peu partout dans les régions.
Oui.
Donc, allez voir là, sur Internet. Tout pour à les fait. Jeunes, pour les moins jeunes également, il y a aussi différents réseaux dans les centres scolaires qui se développent. Donc, de plus en plus, on développe ça parce que ça a quand même là, des effets très, très positifs sur la santé et sur l'aspect social et tout ça. Donc, Siva qui fait un très, très bon travail et qui a permis de développer des athlètes d'excellent niveau.
Bravo. Mais en parlant toujours de ce qui est disponible auprès de la population, on a accumulé dans notre pigeonnier toutes sortes de nouvelles pour des événements qui nous invitent à sortir de chez nous pour découvrir au courant du prochain mois et ainsi de suite. Alors, on vous défile ça.
Oui, on commence donc avec l'événement Montréal A Accessible qui aura lieu le 19 septembre de 17h à 20h. C'est Danse Cité Montréal et Mai, donc Montréal Art Interculturel, qui vous invite donc à une soirée festive qui va présenter l'offre culturelle accessible à Montréal pour la saison 2024 et 2025 au Café Bar et Théâtre du Mai à Montréal.
Et pour avoir plus d'informations, ainsi de suite, ben, vous avez à contacter, entre autres, Maud au 514-525-3595 ou encore, vous pouvez aller communication au singulier à commercial dans cité, il y a un tiret entre dans et cité.org. Voilà. La Fondation INCA offre, comme toujours, et la session d'automne recommence bientôt, des services psychosociaux, des groupes de soutien pour les personnes qui vivent une perte de vision. Il y aura deux formats de groupes disponibles en présentiel et à distance. Alors, ça veut dire que même si vous n'habitez pas dans la région immédiate de Montréal, ben, vous pouvez certainement y prendre part. Les rencontres en présentiel auront lieu au bureau de INCA, 2085 rue Parthenay.
Oui.
Les rencontres se tiendront le lundi après-midi de 13h30 à 15h. Il y aura 8 rencontres et ça commence le 7 octobre.
Oui, et pour ceux qui veulent être en ligne, ce sera donc par Zoom. Ça commence donc en octobre aussi, le mardi 8 octobre, pour s'inscrire le site du CIVA ou encore par téléphone 514-934-4622.
Poste 245, c'est David Trudel, Bergamo, à l'INCA, qui s'en occupe. Alors, que ce soit en présentiel ou par Zoom, donc c'est 8 rencontres consécutives à partir du 7 octobre pour les lundis et du 8 octobre pour les mardis. Le premier en présence, le deuxième en Zoom. Il y a des groupes d'entraide aussi qui vont débuter. L'horaire, c'est un peu la même chose. C'est de 10h à 11h30 en français et en présentiel. Ça, c'est dans les Laurentides. C'est au local de l'Association des personnes handicapées visuelles. Des Laurentides.
Ah, oui, ben ça, donc c'est à Saint-Jérôme.
À Saint-Jérôme,
soit
voilà.
Dans mon bout, à moi, sur la rue Rompré. Et encore une fois, si on est intéressé, il faut contacter David Trudel-Bergamo. Il y aura donc 3 ateliers d'offerts cet automne. Et vous pourrez à ce moment-là échanger au niveau des défis que vous rencontrez. C'est toujours une bonne chose de sortir de ses choix et de pouvoir jaser. Évidemment, il y aura des petites collations de fournis.
Bon, ben bravo. Le temps presse, mais disons que l'INCA toujours invite un parcours historique en septembre qui est gratuit. C'est jeudi le 12. Le 12, là, c'est dans quelques jours. Le 12 et le 26 septembre de 13h30 à 15h30, c'est un parcours historique qui a lieu dans le Vieux-Montréal. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, on va y être. Et encore une fois, on appelle à l'INCA 514-934-4622. Au poste 245. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et on se revoit, on se reparle la semaine prochaine, Élisane.
Oui, on se voit la semaine prochaine.